Et bonsoir à toutes et à tous, ça fait plaisir de vous retrouver dans ce nouveau live Amix Réflexion Show numéro 212. Et comme d'habitude, je le répète, pour ceux qui n'ont pas la chance de nous voir en vidéo, en direct, on est dispo sur toutes les plateformes, les mêmes plateformes sur lesquelles vous nous retrouvez maintenant, c'est-à-dire Facebook, YouTube, Twitch, mais aussi sous format podcast. Là, pour le coup, ce n'est pas possible de l'avoir en direct, mais vous pouvez nous écouter. Il n'y a pas de problème, on vous a vu nombreux, notamment le week-end dernier au Supercross de Paris, à nous dire, les gars, c'est cool de pouvoir vous écouter dans mon camion, je suis chauffeur, je passe 8 heures dans mon camion par jour, et bien j'écoute vos podcasts. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir d'avoir vos retours. Et comme je le disais, ben, le week-end dernier, on était au Supercross de Paris. La semaine qui suit ce type d'événement, ben, vous le savez, la vidéo, c'est notre métier. Et en ce moment, on sous-titre les interviews, on monte la grosse vidéo vlog très inside sur le Supercross de Paris. Et mention spéciale à Marion et Liane qui travaillent dans l'ombre pendant que nous, ben, on se la coule douce en visio pour tailler le bout de gras, tout simplement, en soirée. Plutôt cool ce métier de président comme celui que j'ai en face de moi. Et par rapport à ça, ouais, d'ailleurs, aux interviews notamment, on est déjà en avant-première sur avec quelques petits morceaux un petit peu piquants qu'on a mis dans notre canal privé Instagram. Donc, retrouvez ce canal. On vous mettra le lien dans le live. Là, on va le mettre dans les commentaires. Mais sinon, vous pouvez retrouver ça depuis notre profil Insta. C'est plutôt cool ce petit canal. C'est un petit peu privé, un petit peu plus cosy. Et voilà, on a lancé ça la semaine dernière et vous êtes déjà quasiment 1000 à nous avoir rejoints, donc c'est plutôt cool. Bon, à part ça, on profite, vous l'avez remarqué, on profite du temps de parole que l'on a parce que ça va pas tarder à changer dans quelques minutes. Et dans un premier temps, on va demander à Blaise Abadi comment il va.
Ça va très bien, comme d'habitude, ça fait plaisir de retrouver un peu de chaleur et un peu de soleil avec notre invité qui est dehors en t-shirt et nous on a froid dans mes Pyrénées en tout cas où il fait actuellement 4 degrés et je pense qu'il y a bien une trentaine de degrés supplémentaires du côté de notre invité, donc ça fait plaisir. On va dresser tout de suite un petit peu le CV de notre invité. Francis, est-ce que tu peux nous dire comme d'habitude ton nom, prénom, âge, c'est ce qu'on fait pour tous les invités, un petit questionnaire.
Bah écoute, mon nom, mon prénom, ça j'en suis sûr. Francis Magnanou, mon âge, 66 piges maintenant, 2 fois 33.
Tout jeune.
Quoi lieu de naissance, Francis?
Alors, je suis né à Nanterre, figurez-vous que c'est une anecdote, mais Nanterre, c'est le lieu même de Paris La Défense Arena.
D'accord.
Et toi, je suis né à quelques centaines de mètres du stade, mais accidentellement, mais je suis quand même né à Nanterre.
Juste à côté, c'est pour ça que tu es à domicile en fait quand tu vas là-bas.
Exactement. Exactement.
Ta profession actuelle?
J'en ai plusieurs. Je dirige plusieurs sociétés, mais on va dire que tout tourne autour de l'événementiel. La partie visible de l'iceberg, c'est l'animation d'événements, mais les animations sont souvent liées à des événements que je produis moi-même, mais également pour le compte de tiers, pour le compte de sociétés qui organisent elles-mêmes leurs propres événements. Voilà. Présentateur, producteur d'événements.
La situation familiale?
Alors, je vis maritalement depuis 10 ans avec une nouvelle compagne qui me ravit tous les jours.
Tes revenus actuels? Annuels, pardon. Annuel. Actuels et annuels.
Ouais. Entre 50 et 100 000 euros par an.
Ouais. Tu vois, cool. On a rarement de réponse à cette question.
Dire, souvent, c'est tellement le deuxième à nous avoir répondu sur ce
sujet. C'est vrai. Combien de temps passes-tu sur ton téléphone?
Il
n'y
a pas de tabou en France. Hein. Ma culture est pas. J'ai une culture internationale. Il y a beaucoup de pays où c'est transparent et ça ne me pose aucun problème.
Allez, dernière question pour dresser le CV de notre invité du soir. Combien de temps passes-tu sur ton téléphone?
Je ne regarde pas les analyses, mais probablement près d'entre 2 et 3 heures par jour, probablement.
Tu consommes beaucoup de réseaux sociaux de ton côté ou c'est 2-3 heures par jour de mail, de SMS, de coup de fil?
Auxquelles viennent s'ajouter les heures de boulot sur mes ordinateurs divers et variés. Donc, j'utilise le téléphone essentiellement pour des conversations et des relations audio. Par contre, j'utilise évidemment beaucoup les ordinateurs et quelques logiciels liés à mes pratiques professionnelles. Donc, je dirais qu'au
parfait.
Total, environ, sur tous les écrans, ça va être aux environs de 5 à 6 heures par jour, minimum.
Bon, du coup, quand Nico m'a dit on va avoir Francis Magnanou cette semaine, il est à La Réunion, moi, je lui ai dit de suite, ouais, c'est bon, il est à la retraite, il se la coule douce là-bas à La Réunion. Explique-nous un petit peu ce que tu fais l'info aussi de ce week-end, c'était que c'était ton dernier Supercross de Paris, on va attaquer directement avec ça. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais maintenant justement à La Réunion?
Bah, La Réunion, c'est un endroit que je connais très bien, puisque je vais essayer d'être court, mais c'est quand même un endroit historique, puisque c'est là qu'a commencé ma carrière, un peu accidentellement, puisqu'en mars 84, des clients réunionnais, des magasins de moto réunionnais étaient venus pour le premier Supercross de Paris, où je me trouvais évidemment en tant que spectateur et partenaire, puisqu'à l'époque, j'étais dans l'équipe commerciale de Motocross Marketing. Et des clients réunionnais, donc Moto6 de Loretta, sont tombés amoureux fous de l'événement au mois de mars et m'ont dit, on s'est vu à Paris juste après l'événement et pendant, ils m'ont dit c'est incroyable, il faut qu'on fasse ça chez nous, ce serait extraordinaire. Donc en décembre, pardon, 84, la même année, hein, en décembre 84, suite, juste après le second Supercross de Paris, puisqu'en 84, il y a eu deux Supercross à Paris, en mars et en novembre. Dans la foulée, juste avant Noël, on a fait un Supercross ici sur l'île de La Réunion, sur le stade de la Redoute, qui ensuite a fait beaucoup de petits, a perduré, a bougé, a changé d'endroit, etc. Sont venus s'ajouter des super motards, des FMX, beaucoup d'autres choses, mais l'histoire part de mars 84 à Paris et avec la déclinaison qu'on a fait du Supercross de Paris à Saint-Denis de La Réunion en décembre 84.
Et là et du coup, tu y es pour le supermotard.
C'est à cette occasion que j'ai pris le micro parce que pour ne rien cacher, on avait fait, il y avait deux pilotes de renom, c'était Yves Gervais, Jean-Luc Fouché et moi-même, qui était l'accompagnant et aussi le coordinateur de l'opération. Et j'ai roulé, j'avais arrêté de rouler moi en 82, donc j'étais pas en grande forme. Et puis on a surtout fait une grosse bringue, une énorme bringue toute la semaine. Et c'est une grosse erreur, il faut jamais inviter les pilotes. Il faut qu'avant l'événement, il se passe pas grand-chose. Après l'événement, il faut les autoriser à faire la fête. Mais si vous leur donnez une semaine avant l'événement, vous prenez des risques. Ça, c'est un petit clin d'œil aux organisateurs. Donc nous, on avait passé une semaine à faire une belle fête. Et c'est vrai que le jour de l'épreuve, j'ai pas personnellement été très brillant. Mais pour essayer de rattraper le morceau, j'ai pris à partir des demi-finales, j'ai pris le micro un petit peu accidentellement. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Voilà.
D'accord.
Donc là, tu es revenu, là, aujourd'hui, tu es à La Réunion pour le super motard, c'est bien ça?
Alors, je suis revenu à La Réunion, puisque, comme je vous le disais, il y a différentes épreuves qui se déroulent depuis 84, et statistiquement, il y a un peu plus de super motards que de SX, pour plein de raisons, c'est plus facile d'organiser un super motard, et il y a un organisateur local, vraiment très, très super mote, qui adore le reste, hein, qui était présent sur le MotoGP aussi, enfin voilà, qui adore la moto sous toutes ses formes, mais qui est un grand amoureux de super motard. Donc, qui organise avec le club Magma, qui organise depuis très longtemps, une trentaine d'années, des événements, alors des supercross de temps en temps, mais majoritairement des supermotards. On a quand même rajouté une petite pointe de FMX, puisque Brice Izzo est là aussi ce week-end, pour agrémenter le supermotard d'un peu de FMX en différentes sessions dans le cadre des journées de supermotards.
Du coup, moi, j'aimerais bien revenir sur le commencement, quand tu as commencé justement là-bas. Comment ça s'est passé? Est-ce que de suite, tu as été à l'aise? De suite, tu t'es senti une passion pour le fait de piquer comme ça les événements, de commenter, de connaître les pilotes? Ou est-ce que ça s'est fait petit à petit? Tu as eu un premier coup d'essai, tu as vu que ça te plaisait et petit à petit, tu t'es amélioré en compétences?
Bah, je pense que de toute façon, comme dans toute chose dans la vie, il y a une part d'inné, une part d'acquis. En 84, c'était un accident, hein, comme je vous l'ai dit. Mes activités, c'était la distribution d'équipements moto avec Motocross Marketing. Puis ensuite, avec Journal Diffusion, on a distribué les équipements Answer en France. Et à cette occasion, en 87, trois ans plus tard, est né le championnat de France de Supercross, dans lequel j'étais impliqué aux côtés de Jean-Luc Fouché, qui était évidemment le maître d'ouvrage, si j'ose dire, du championnat de France de Supercross. Et dès la deuxième épreuve, s'est posé un problème de speaker. Et comme la société que je représentais, Answer, soutenait l'événement, j'étais présent sur tous les sites. Et à l'occasion du deuxième événement, c'était à Vidauban, dans le Var, on est tombé sur un... Je ne vais pas dire de choses obligeantes parce qu'en plus, il nous a malheureusement quittés sur un speaker classique à l'ancienne et qui était en décalage avec l'événement lui-même. Et certaines personnes comme Jean-Luc Fouché ou comme les journalistes de l'époque, Xavier Audouard ou des gens comme Patrick Boulan ou encore Eric Breton, se sont dit « Mais attendez, il y a Francis qui est là. Accidentellement, un jour, il a fait un truc il y a trois ans. Il paraît que c'était bien. » Ils m'ont supplié, entre guillemets, hein, ils m'ont mis un peu la pression pour que je vienne seconder, voire remplacer le speaker habituel, qui était un speaker régional. Et effectivement, j'ai fait ça, et ça s'est bien passé. J'avais, à l'époque, il faut dire, alors aujourd'hui, ça s'est un peu banalisé, mais à l'époque, j'avais un style qui détonnait, qui était complètement en décalage avec ce qui se faisait habituellement. J'étais très dynamique, je bougeais, j'allais dans le public, danser avec les pom-pom. Je connaissais évidemment, j'étais légitime parce que je connaissais évidemment très bien les pilotes. Donc il y avait une vraie complicité et c'était quelque chose de très dynamique qui n'était pas le standard habituel. Donc ça s'est propagé comme une traînée de poudre très rapidement, puisque là on est en automne 87. Très rapidement, le président de la Fédération française de l'époque avait pris en charge l'organisation du motocross des nations en 88. À Villars-sous-Écot, et à l'époque Jean-Pierre Mougin était président du motoclub de Villars-sous-Écot. Il m'a dit, il faut que tu viennes à Villars, c'est un nouveau style, ça va plaire, ça rajeunit le motocross et la façon de l'animer, etc. Et ça s'est très rapidement enchaîné, très vite, parce que probablement parce qu'il y avait, vous savez, la nature a horreur du vide, hein. Donc il y avait un vide à ce moment-là, vraisemblablement, que je suis venu combler, et ça s'est enchaîné très très vite avec les événements moto, et puis ensuite sont rapidement venus se greffer beaucoup d'autres événements importants là-dessus. On aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Ouais, tu as démarré directement en fait sur la scène internationale, mais tu devais quand même avoir un package plutôt lourd en disant, voilà, je veux dire, tu devais parler anglais, tu connaissais bien les pilotes, techniquement, tu voyais ce qui se passait en piste. Il y avait quand même un package intéressant, je pense.
Oui, je pense. Bah, de toute façon, il fallait. Bon, je pense qu'avant tout ça, c'est comme tu l'as dit, c'est une question de culture générale. Déjà, quand je vois, je veux pas être désobligeant, mais quand je vois les échanges sur les réseaux sociaux ou ailleurs d'un certain nombre de gens prétendument animateurs ou qui voudraient faire des choses, mais qui savent pas écrire ou qui savent dont le vocabulaire se limite à 150 mots. Et je veux dire, il faut pas oublier que c'est quand même une opération de séduction publique. C'est une opération de communication avec un C majuscule. Donc la façon de s'exprimer, c'est quand même un élément fondamental dans ce type de métier. Ce que vous faites en plus, le talent éventuel, l'énergie, le mouvement, mais la base, le socle, c'est quand même d'avoir effectivement une légitimité en matière de compétences et de connaissances, mais aussi un socle en matière d'érudition, en matière d'expression, de culture générale, comme je le disais, un vocabulaire à minima. Enfin, quand je dis à minima, c'est un clin d'œil, parce que plus vous avez une richesse dans votre vocabulaire, plus vous pouvez alimenter une journée. Quand vous commencez le matin à présenter un événement à 7h et que vous finissez à 2h du matin, non-stop ou presque, il vaut mieux avoir un échantillonnage d'expressions, de vocabulaire, d'anecdotes, une syntaxe adaptée, et puis éventuellement, effectivement, le compléter par la maîtrise de langues étrangères.
Mais c'est vrai qu'il ne suffit pas de mettre le feu et de commenter les courses, parce que ça, en soi...
Non, brailler, faites du bruit, crier très fort, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, enfin, de mon point de vue en tout cas.
Ouais, c'est vraiment travailler en partenariat avec l'organisateur et ben voilà, il faut pendant les temps morts, il faut être là. C'est sûr que c'est plus ça la partie qui est difficile. Animer en soi et regarder ce qui se passe sur la piste et commenter, c'est pas forcément le plus difficile, quoi.
Oui, le commentaire, enfin, pour voir qui est premier, qui est second, qui est troisième. Je veux dire, 90% des spectateurs, en tout cas sur des événements comme les nôtres, hein, au Supercross de Paris, il y a des newcomers, il y a des gens qui arrivent. Enfin, il y a quand même une grande majorité de gens qui connaissent déjà la course, plus ou moins les pilotes, et qui sont capables de décrypter les éléments sportifs pour l'essentiel. Alors après, notre rôle vient d'affiner, de compléter, d'attirer l'attention sur une trajectoire, sur une technique de pilotage, sur une stratégie que l'on sent voir venir. Et c'est en cela que c'est intéressant. Moi, j'adore attirer l'attention d'un spectateur pendant les essais chronos. Ah, attention, il vient de partir. Regardez, dès le deuxième virage, je vous invite à suivre parce qu'il est parti pour faire un bon temps. Je ne serais pas étonné qu'il soit tout proche de la pole. Et quand il franchit la ligne et que vous avez en haut de l'écran son nom qui apparaît, votre crédibilité, votre légitimité, elle est plutôt renforcée. Vous voyez que, je pense que c'est ce qu'attendent les gens, parce que pour dire qu'un gars va vite, qu'il saute haut, je pense que ça, c'est à la portée de n'importe quel individu. Comme il y a même son vocabulaire est limité, ça peut arriver à se décoder facilement.
Et je me rappellerai toujours, il y a cinq ans, quand, sur les premiers Supercross en Nanterre, on était venus, nous, le vendredi, et le vendredi, tu répétais. Tu répétais un petit peu le déroulement de la soirée. Ça m'avait marqué parce que c'est un peu comme avec les pilotes. On s'est dit, ouais, ils sont forts, c'est bien, ils sont forts. Mais toi, c'est pareil. Tu es un des meilleurs dans ton domaine, mais peut-être parce que tu as travaillé, parce que tu répètes, parce qu'il y a des éléments comme ça. Tu as une base de travail qui est solide. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que justement, cette répétition, tu le fais seulement dans les supercross, les gros supercross comme Supercross de Paris ou dans tous les événements?
Non, globalement, je dirais, pour résumer, hein, dans tous les événements, parce qu'en fait, Mon objectif dans mon travail de présentateur, j'ai un double objectif, mais le premier objectif, si je devais simplifier, c'est d'amener au spectateur ou au téléspectateur, le cas échéant, l'émotion, les commentaires. J'ai envie de lui donner ce qu'il a envie d'entendre. Moi, ce qui me manquait quand j'étais spectateur de motocross avec les présentateurs de l'ancienne génération, c'est que justement, ce que j'entendais ne m'apportait pas grand-chose. Ça ne me convenait pas. Moi, j'aime apprendre des choses. J'aime que le présentateur, au-delà de me faire crier fort, danser, chanter, au-delà de ça, m'amène des éléments d'appréciation, d'analyse, de comparaison, etc. Donc moi, j'ai essayé, je dis bien essayé, je ne sais pas si je suis parvenu, mais probablement en partie sans doute, j'ai essayé d'amener au spectateur ce qu'il était venu chercher. Et par là même, l'idée, c'était donc d'être le trait d'union entre le spectacle, une application, comment dirais-je sur un téléphone, une application qui permet de décoder ce qui se passe, de transmettre l'image, parce que finalement, quand on est dans le motocross, on a une image, mais l'idée, c'est d'y ajouter le son, l'audio, pour enrichir l'émotion liée à l'image et à ce qu'on croit voir. Voilà, c'est ambitieux, mais en tout cas, c'est l'objectif à la base. C'est pas se contenter de relater les événements, c'est d'essayer de les compléter, d'appuyer là où les points sont plus importants. Au-delà du résultat, vieux cliché, il est parfois plus intéressant de regarder la remontée d'un mec qui part 12e et qui va remonter 4 que les deux premiers qui sont en position de la même manière depuis le premier tour, quoi. Donc voilà, l'idée, ce n'est pas simplement de faire du commentaire. L'idée, c'est d'enrichir tant que faire se peut l'expérience du lecteur ou du téléspectateur ou voire de l'auditeur, parce qu'il y a des gens qui malheureusement sont obligés de nous écouter sans nous voir.
Tu nous l'as dit là tout à l'heure, ça représente peut-être 2% de ton activité professionnelle, le fait d'être animateur, speaker. Pourtant, tu vois, là, depuis le début du live, ça fait 17 minutes, on parle que de ça. Oui, est-ce que, c'est normal, c'est une étiquette qu'on t'a collée parce que c'est là qu'on te voit le plus au final. Mais en soi, c'est pas forcément ça qui représente ta vraie vie, ton vrai boulot. Est-ce que ça te saoule, toi, d'avoir cette étiquette?
Bon, je dirais pas que ça me saoule. Parfois, oui, je dirais pas que ça me saoule, mais... Parfois, quand c'est présenté de façon péjorative, oui, ça peut m'ennuyer.
C'est rarement le cas.
Magnano, les speakers. Si, il y a des gens avec un QI en dessous de la moyenne qui, dans un paddock, peuvent dire bah, machin, il est mécano, et puis Magnano, il est speaker. Après, ça dépend de qui ça vient, si tu veux. Comme dans la vie de tous les jours. Il y a certains commentaires qui te blessent plus ou moins parce que c'est des gens que tu apprécies. Après, quand c'est des gens pour qui j'ai un respect classique, mais pas de lien particulier, ça me touche beaucoup moins. Mais c'est vrai que l'avis de certaines personnes pourrait me toucher s'il était désagréable ou désobligeant. Dieu merci, ce n'est pas ce qui arrive le plus souvent. Donc, il arrive qu'il y ait des choses désagréables qui soient dites, y compris sur le côté péjoratif. Mais après, la plupart du temps, ça vient de gens avec un peu le plafond un peu plus bas que la normale. Donc là, ça me gêne moins. Je suis un peu direct, mais...
Bon, ça va, bon. Tu vas pas nous choquer. C'est pas notre premier jour sur internet, donc c'est bon.
C'est bon. T'as vu que comment, toi qui es là depuis longtemps, l'arrivée des nouvelles technologies, parce qu'avant les salles, on va dire que c'était de la moto, du public qui mettait le show et un speaker qui mettait aussi le show. Maintenant, on a ça, plus des écrans, plus de la musique, plus des entr'actes. Avant, on avait les pom-pom girls simples, on savait qu'on allait les retrouver chaque année. Maintenant, on a des animations différentes avec des partenaires. Comment tu as vécu ça et comment tu t'es adapté justement à cette évolution?
Il faut savoir que l'essentiel de... C'est une double question que tu poses. En ce qui concerne l'arrivée des nouvelles technologies, des outils technologiques à disposition, ça peut être, et c'est probablement, des outils qui peuvent apporter une valeur ajoutée à l'événement. Ça, c'est un fait. Mais c'est un peu comme les armes à feu, quoi. C'est-à-dire que c'est pas ce qui est important, c'est pas l'arme à feu, c'est le tireur. Donc, ça dépend comment on les utilise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si c'est bien utilisé, la technologie numérique, tous ces nouveaux médias, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement positif. Malheureusement, mon expérience personnelle fait que je suis pas toujours convaincu de l'efficience du message. C'est-à-dire que ça a quelque chose de très bien parce que ça a donné la parole à plein de gens. Plein de gens au sens, là, je veux pas être péjoratif, mais factuellement.
Alors, je parlais juste, excuse-moi, je te coupais, mais je parlais juste, tu sais, dans les salles. C'est-à-dire que dans les salles, maintenant,
oui, mais
tu sais, à l'aréna.
Je vais te répondre. Ce que je veux dire, c'est que si c'est bien utilisé dans les salles, par exemple, c'est un formidable outil. Après, tout ça, c'est une question d'équilibre. C'est comme la cuisine. Si tu vas dans un très bon restaurant avec un très bon cuisinier, il n'y a pas forcément besoin de rajouter toutes les épices du monde et de faire des recettes très, très compliquées. Il y a quand même des points fondamentaux. Il y a quand même des éléments dans la gastronomie comme ailleurs qui sont fondamentaux. Et le trop est l'ennemi du bien. Donc, à un moment donné, il faut prioriser. Si tout ça, c'est bien utilisé, si c'est bien équilibré, si on utilise ces supports à bon escient, c'est un formidable outil. Malheureusement, comme c'est accessible à beaucoup de monde, il arrive que ce soit pas forcément très bien utilisé et que ça n'aille pas, je dirais pas à l'encontre de l'événement, mais ça n'apporte pas toujours la valeur que ça pourrait apporter. Et le deuxième point, pour répondre à ta question liée aux pom-pom, etc., ou autre chose, on en reparlera, aux animations dont tu parlais tout à l'heure. Le deuxième point, mais tout ça, c'est en corollaire, on va dire que le numérique et les nouvelles technologies, ça tourne autour de la dématérialisation. C'est un terme très utilisé. Alors évidemment, faire un montage vidéo avec une navette spatiale ou avec, je sais pas, avec des engins stratosphériques en vidéo, c'est tout à fait possible. À Paris, à Bercy, on l'a fait avec des micro-navettes ou la main de Johnny ou des choses comme ça. On était dans le matérialisé. Alors donc, les outils technologiques permettent d'utiliser le monde virtuel. Ça, c'est vraiment bien. Et c'est surtout beaucoup moins cher. Donc, pour répondre à ta question, il ne faut pas se voiler la face. L'utilisation à profusion du dématérialisé, ça a pour objet de remplacer le matérialisé. C'est plus facile demain de faire une vidéo avec des jolies filles qui dansent sur les murs que de faire venir 12, 15, 25 danseuses comme on l'a fait à une époque. On a fait venir des filles des États-Unis pendant les premières années, pas un avion spécial, mais pas loin, avec des tenues spécialement créées. Tout cela, c'était évidemment un énorme plus pour l'événement, à mes yeux, en tout cas aux yeux des spectateurs de l'époque. Simplement, économiquement parlant, malheureusement, le monde a changé et on n'est plus en mesure de le faire. Donc, si on devait utiliser les anciennes recettes pour créer l'émotion, ça, on va rebondir sur ce que vous allez voir où je veux aller. Les anciennes recettes, aujourd'hui, c'est simple. Il faudrait qu'on enlève la moitié du plateau pilote. Ou alors, il faudrait qu'on augmente le prix des billets à l'entrée du stade de 30%. C'est-à-dire que si on passe de 100 euros à 150 euros, on pourra à nouveau repartir dans le physique, dans le monde réel. Malheureusement, aujourd'hui, on peut s'offrir du rêve plus facilement avec de la vidéo qu'avec du rêve concret et du rêve physique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tout s'explique. C'est-à-dire qu'en fait, l'appel au virtuel, c'est un plus, mais c'est aussi une façon de avec un excellent ratio en matière d'émotion et en matière de coût. C'est plus facile d'avoir des images que d'avoir 40 danseurs synchronisés sur la piste en termes de budget.
Ouais, la transition, elle est toute faite. On voulait parler du show du Supercross de Paris. C'était le week-end dernier. On a sondé un petit peu, nous, des néophytes. On a sondé des gens qui sont venus presque pendant 30 ans. On a eu notre propre avis, nous aussi, parce qu'on est venus plusieurs fois à Bercy, à l'Arena, etc. Le show, clairement, pour ce 40e anniversaire, ce qui ressort de ça, c'est que les gens ont été déçus en majorité, en très grande majorité même, par rapport à ce qui se faisait habituellement. Dans ce que tu as dit...
Pas habituellement, mais ce qui s'est fait par le passé, probablement. Ouais.
Ce qui s'est fait par le passé, ouais, après 40e anniversaire. Moi, si tu veux, je pèse mes mots parce que je suis un habitué du Supercross de Paris, donc forcément, des fois, je me dis, ah, peut-être que je suis un peu blasé maintenant, et c'est dommage, tu vois, j'ai plus mes yeux de gamin. Mais voilà, on a quand même sondé autour de nous, et c'est vraiment ce qui est ressorti cette année. Le show n'était pas à la hauteur des espérances pour un 40e anniversaire, en tout cas. Et voilà, d'après ce que tu disais précédemment, juste à la question d'avant, c'est qu'il y a quand même une grosse part de ça qui est peut-être due aux moyens aussi, au coût.
Ben, le fond du problème, c'est que… Alors, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Vous pourriez parler votre... Oui, je suis en direct, monsieur. Oui, ben, ça, c'est pas… Et vous fermez votre fenêtre et... Ok. Excuse-moi, il y a les voisins.
C'est les voix du live.
Et donc… Alors, je vais descendre le son parce qu'il ne faudrait pas gêner, monsieur. Si vous m'entendez toujours, ça va ?
Oui, très bien. C'est très bien, ouais, c'est bon, okay. Ça régule. Et si jamais, montez le son de votre côté. Mais nous, on t'entend très bien, il n'y a pas de problème.
Ok, super. On sait. Excuse-moi, je suis un peu déstabilisé par l'intervention de notre ami. Je suis à l'hôtel, hein, donc il y a des gens qui ne sont pas forcément...
Et il y a du décalage horaire, en fait. Il n'est pas 19h25, mais il est 21h25.
Non, il est 22h30 maintenant. 22h25, pardon. Ouais, 22h25. C'est la raison pour laquelle on a débuté à 19h chez vous, parce que là, ça faisait encore beaucoup plus tard si on avait pris un horaire habituel. Pardonne-moi, on en était où ?
Je te disais, est-ce que c'est une question de moyens, du coup, si le show, si, bah voilà, le show était peut-être un peu moins à la hauteur cette année, est-ce que c'est une question de moyens ?
Probablement, oui et non. Je suis pas, d'abord, je ne suis pas l'organisateur. Mais probablement, encore une fois, on est, c'est, tout ça, c'est comme la cuisine tout à l'heure à laquelle je faisais référence. On est obligé de... je ne suis pas l'organisateur. Il faudrait poser la question à Sophie Casanova de La Rivière. Mais c'est tout ça, c'est une affaire d'arbitrage. Il faut bien savoir qu'avec un budget défini, on essaye de faire le meilleur show possible. Il y a deux options. Soit on décide d'enrichir le show avec des moyens complémentaires. Et il y a deux options pour y répondre. Soit on limite le coût sportif, on enlève des pilotes, on ne propose pas le plateau pilote exceptionnel. Ou alors, on cherche des ressources nouvelles en augmentant le prix de la billetterie. Donc tout ça, c'est, si vous voulez, les garçons, c'est une question d'équilibre. La priorité a été donnée aux sportifs. Pour la première fois depuis très très longtemps, on n'a pas eu un plateau avec cette qualité-là. Je vois Roxane, Cooper Webb, les deux frères Lawrence, je veux dire Brighton à la place de Barcia, parce que Barcia, vous savez pourquoi. Je veux dire, ce plateau-là, c'était évidemment un plateau très cher. L'objectif, c'était d'offrir, la priorité, c'était d'offrir la plus belle course possible. Donc, à partir de là, il y a des arbitrages à faire. Si on doit aussi augmenter beaucoup les budgets pour la partie présentation, il est mécaniquement obligatoire d'avoir un impact sur les recettes. Et les recettes, à ma connaissance, à moins d'un généreux donateur venu d'Extrême-Orient ou de Moyen-Orient ou d'un roi du pétrole quelconque qui pourrait compenser, on s'appuie d'abord et avant tout sur la billetterie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit passer de 120 à 150 euros, on peut, ou 140 euros, si on augmente de 30 ou 40 euros le prix du billet, on pourra donner probablement encore plus de lustre au show. Mais c'est une question de priorité. Et si on fait ça, est-ce que tout le monde suivra? Il faut, est-ce qu'on a autant de spectateurs à 140 euros qu'à 100? Je ne suis pas sûr.
Tu crois, toi, Francis, que c'est seulement une question de budget? Qu'il n'y a pas.
Déjà, est-ce que tu es d'accord pour rejoindre ce qu'on dit, nous, de dire que le show était ouais, peut-être un petit peu moins bien que ce qu'on a vécu les années précédentes?
C'est ça, en tant que présentateur, est-ce que tu l'as ressenti comme nous?
Honnêtement, je vais essayer de ne pas avoir de langue de bois. Ouais. Honnêtement, je dirais qu'il était par contre assez comparable techniquement à ce qu'on a fait les dernières années. Donc, il n'y a pas eu un effet de surprise monstrueux par rapport à ce qu'on faisait. Et je comprends très bien que dans l'attente des fans en particulier, hein, pas du mainstream, mais chez les fans, ce 40e anniversaire, ça sonnait à l'oreille, ça donnait envie d'avoir quelque chose d'exceptionnel. Où il y a eu un malentendu, c'est que l'exceptionnel, il était sur la piste, il n'était pas à côté. Mais je peux comprendre qu'on ait eu envie aussi d'un côté beaucoup plus spectaculaire. Mais je vous rappelle que on est dans un pays qui est la France et qui est vraiment très, très compliqué. Je veux dire, pour ajouter un pétard sur la ligne droite, vous ne pouvez pas vous imaginer les contraintes qu'il peut y avoir au niveau administratif, comment on est surveillé, observé, comment les services de l'État, comment les services de la ville de Paris, enfin, tout le monde est, monter une échelle derrière la tribune, la pseudo skybox, c'est hyper compliqué, ça passe par X commissions. Donc, je suis pas en train de chercher des fausses excuses, je vous promets, d'ailleurs, s'il n'y a pas autant d'événements que ça, c'est qu'il y a des raisons, c'est que c'est vraiment très compliqué de monter un événement. Et que si, en plus, on y va la fleur au fusil en disant, on compte pas, on met tous les moyens qu'on veut et au final on verra ce qu'on verra, ben, il n'existe pas 40 ans le Supercross. Donc s'il est là au bout de 40 ans ou presque 40 ans, 39 ans, c'est parce qu'économiquement aussi il y a eu des équilibres qui ont été trouvés. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas forcément facile à entendre.
Ouais, mais qu'est-ce qui a changé en termes de moyens par rapport à une année où on se rappelle tous, et on l'a encore entendu plein de fois ce week-end, la vidéo d'intro avec la Casa des Papels où tu vois, on prend en fait, tu sais, le remix
avait,
un peu de la Casa
des Papels
avec les pilotes. Mais là, voilà, c'est, les moyens étaient identiques et pourtant tout le monde s'en rappelle encore.
Pour rajouter par rapport à ça, il y en avait un Franky Zapata qui était en l'air, tu vois, il y avait des choses quand même, et qu'on n'a pas retrouvé cette année-là.
Ouais, là, ça peut être une question de moyens. Moi, là où je voulais en venir, c'est que tourner une vidéo comme celle de la Casa des Papels, du moins le remake, c'est autant de moyens que la vidéo qui a été faite chez...
Oui, à quelque chose près, oui, on peut discuter, ouais. Mais oui, bon, après, je n'ai pas la responsabilité de la création, et je pense que tu ne peux pas faire non plus chaque année la Casa des Papels, ou d'ailleurs, il y a eu une suite avec d'autres séries. On a eu une année aussi avec des dessins animés japonais, je crois. Je ne suis pas très friande sur le truc, mais il y a des volontés de chercher. Mais bon, l'idée, c'était, la vidéo en particulier, c'était de revenir sur les 40 ans. Il fallait faire un lien avec les 40 ans, essayer de retrouver. On retrouve d'ailleurs des images des premiers Supercross. Il y a une volonté de raconter l'histoire du Supercross dans la vidéo de 40 ans. Et là, par contre, c'était à la fois une vidéo et en même temps, c'était presque un document historique qui a été présenté. Donc, c'est aussi le 40e anniversaire. Il fallait trouver un lien. Je ne suis pas en train de de chercher de fausses excuses. J'imagine que le cahier des charges qui a été défini, c'était de créer quelque chose en continuité des 40 ans. C'est pour ça qu'on retrouve Danny Laporte ou Brock Glover, le premier à avoir signé un contrat il y a 39 ans, justement. Lui, il en a 40 d'ailleurs, parce que c'était avant le Supercross qu'il avait signé. Voilà, il y a eu cette volonté de faire une édition empreinte aussi de à la fois la légende et puis la culture de l'événement. Mmh. Ouais, vas-y.
Juste ouais, pour donner mon avis personnel, moi, très franchement, je m'attendais à tu sais, 3-4 tours de Jérémy Magraff ou un pilote comme ça. Voilà, c'était juste ça. Ça, c'est vraiment mon point de vue personnel. On le voit en commentaire,
il y en a quelques personnes. Mais ça, je l'entends. Mais c'est probablement ce que certains pensaient. Après, je vais te dire, il y en a aussi qui avaient plutôt envie de voir Johnny O ou Ricky Johnson. C'est
exactement ce qu'on a, tu vois, dans les commentaires.
Sauf qu'à un moment donné, il y a des choix à faire et que tu peux... Voilà, je vois, on aurait voulu voir Ricky Johnson, Bailey, Johnny, etc. Je peux le comprendre, mais il faut savoir que tout ça, c'est pas neutre. Je veux dire, c'est beaucoup d'argent de faire venir. Ils aiment le. Faut pas croire que les pilotes sont bénévoles, même les anciens. Je veux dire, c'est des opérations comme ça. C'est pas un billet, c'est pas une affaire de 500 balles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça a aussi un coût. Je veux dire, encore une fois, c'est une question d'arbitrage. Il y a peut-être que certains choix n'ont pas convenu à d'autres. A contrario, il y a aussi plein de gens qui ont dit merci de nous avoir offert un plateau comme cette année on n'avait jamais vu depuis très longtemps. C'est sûr que si tu enlèves Jet Lawrence, tu peux faire revenir pas mal d'anciens. Est-ce que, voilà, le problème, c'est qu'il fallait. Je vous promets, je suis d'autant plus facile que je ne suis pas l'organisateur officiellement, donc, et même pas du tout. J'ai même pas le droit de regard général. Moi, on me présente le produit fini, donc après, je donne mon sentiment plus ou moins, et puis surtout, je fais ce qu'on me donne et je comprends en tout cas, de par mon professionnalisme, je comprends très bien quel a été le fil conducteur de tout cela. Après que dans l'esprit de certains, notamment chez les fans, certains avaient envie de plus de quelque chose, d'autres qui voulaient peut-être revoir la main de Johnny, d'autres qui auraient voulu voir une nacelle comme à la grande. Ça, je peux le comprendre, mais il y a ce qui est réel. Tu sais, c'est comme le gamin, dans la vidéo du gamin, il y a ce dont on rêve et puis il y a la réalité et la lumière s'allume, quoi, tu vois. Je tape pas en touche quand je vous dis ça.
On comprend d'autant plus que t'es pas, comme tu dis, t'es pas l'organisateur.
Tout est lié à des équilibres économiques.
Ton sentiment global, toi, sur cette dernière édition, bien sûr, toi, tu as un pincement au cœur parce qu'on comprend que c'est la dernière que tu présentes, mais si tu devais analyser ton sentiment global, le sentiment global qui te reste après cette course-là, ça serait quoi?
En essayant de faire abstraction de mon cas personnel, en deux mots, je dirais que le samedi, on a eu plein de soucis techniques qui tous ne se sont pas vus, mais comme souvent le cas, un premier soir, malgré les répétitions, on a eu plein de soucis techniques, du micro qui, enfin c'est pas le micro d'ailleurs, enfin, l'oreillette qui fonctionnait pas. Au début, on perd 8 minutes en début de soirée, ces 8 minutes, on doit les rattraper pendant la soirée, donc derrière, ces 8 minutes qu'il faut rattraper, en tout cas tenter de les rattraper, ça nous pénalise sur plein de séquences qu'on a été obligé un peu, non pas de chanter, mais de traiter un peu différemment. Voilà, donc je suis un peu, le samedi, je suis un peu frustré. J'ai nettement préféré le dimanche. Un détail près, c'est que la jauge de la salle n'était pas la même. J'aurais aimé d'avoir la salle aussi pleine dimanche que samedi, même si c'est globalement un très beau succès parce qu'on était guichet fermé samedi. Faut pas oublier que la capacité de la salle, c'est 3 fois le POPB. Une salle pleine à Paris La Défense Arena, c'est 3 POPB pleins. Les gens ont tendance un peu à l'oublier aussi. Tu comprends? Le POPB, c'était extraordinaire. Certes, c'était un chaudron. Certes, la proximité était merveilleuse. Ça, c'est vrai. Mais vous avez 10 000 personnes. 11 000. Ouais. D'accord? Donc, là, quand on a 30 000, c'est forcément, les dimensions sont différentes. Donc, je comprends très bien que, enfin, en tout cas, moi, c'est une frustration aussi, hein, de ne pas arriver à. Alors, à la fois coincé par le timing et puis aussi par la structure même de la salle qui fait qu'on n'a pas la proximité, on n'a pas l'odeur, on n'a pas le visuel. Moi, j'ai du mal à regarder les gens dans les yeux quand je suis au milieu de la salle, alors qu'au POPB, quand je regardais un spectateur, en une tribune, chaque spectateur avait l'impression que c'était lui que je regardais. Malheureusement, techniquement, on ne peut pas le faire dans une salle comme celle-ci. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, donc ça simplifie pas la tâche, ça a plein d'avantages, c'est fantastique d'avoir une salle à 30 000, mais voilà, et puis il est vrai aussi qu'on est sur une logique économique qui fait qu'il y a certains passionnés qui n'ont pas forcément le budget pour venir du fin fond de la province avec aujourd'hui un billet de TGV Bordeaux-Paris, enfin, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est 400 balles un billet TGV si vous n'y prenez pas un an à l'avance. Donc, si vous voulez, hein, pour un, moi, j'habite en province. Hein, pour un fan de Lot ou des Landes ou encore de l'Aveyron ou de Rhône-Alpes, je veux dire, c'est aller à Paris aujourd'hui avec les conditions qui sont proposées par les transports, avec les problèmes de pollution, etc. Je veux dire, tout ça aujourd'hui, ça entraîne des coûts énormes. Et ça rejaillit aussi sur la frustration. Parce que du coup, quand on fait l'effort soi-même, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire. On a tellement souffert pour l'avoir qu'on voulait la marier encore plus belle.
Puisqu'on parle d'argent, on a une question qu'on va relever, une question sur YouTube avant de passer aux questions Instagram de la demi-heure de live. Serait-il imaginable de jumeler le SX de Paris et le World Supercross pour augmenter l'aspect financier? Et c'est vrai qu'on se dit, le Supercross de Paris en soi, il n'a pas besoin du WSX, puisque ça fait des années que le Supercross de Paris est organisé, ça fait des années qu'il fait venir autant, voire plus de pilotes de talent que sur le WSX. Mais est-ce que pour compléter cet aspect portefeuille, tu penses que ça serait une bonne chose, toi, de jumeler les deux?
Je ne sais pas. En tout cas, c'est une chose qui n'est pas totalement inconcevable. Après, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte en matière de droit, en termes de répartition des coûts, répartition des recettes. Là, on touche à un business. On ne parle pas d'une course de village, hein. On parle quand même d'un événement qui représente des flux financiers élevés. Mais oui, ça aurait du sens. Oui, ça aurait du sens. En tout cas, l'idée a du sens.
Toi, tu l'imagines, ça? Tu l'imagines ou pas? Par rapport, toi, vu que tu connais bien les organisateurs de chaque côté, peut-être?
Oui, c'est une option, mais c'est pas facile. On pourrait imaginer faire des grands prix de F1 et le même jour du MotoGP ou la veille, mais tout est possible pour augmenter la qualité d'un événement. Mais il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. En théorie, je vous dis oui, ça fait partie probablement des options que chaque camp étudie, chaque camp envisage ces options-là. Mais il y a tellement de problèmes contractuels avec les marques, avec les pilotes, c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a des enjeux juridiques et des enjeux financiers importants. Donc, c'est pas facile.
Pardon, vas-y, je te laisse finir, Francis, excuse-moi.
Non, je disais que c'est pas facile à monter une opération comme celle-ci.
Ok, du coup, on a dépassé un petit peu la demi-heure de live comme d'habitude, mais la demi-heure de live, Francis, c'est pour les questions Instagram. On en a eu un bon nombre quand on a annoncé que ce serait toi notre invité du soir. En plus, remplaçant de dernière minute, on n'en a pas parlé, mais tu as remplacé Xavier Audouard qui malheureusement enchaîne les nuits blanches depuis deux semaines.
Désolé,
avant. mais c'est trop cool. Dans tous les cas, il aurait fallu que tu sois notre invité incessamment sous peu, donc c'est parfait. Tu es le remplaçant de luxe, j'ai envie de dire. Ces questions Instagram, elles sont présentées tout simplement par nous-mêmes, MX Réflexion et par MXR Communication. C'est nous aussi, mais sur la partie BTP, puisque tout ce qu'on fait dans le milieu de la moto, on le fait aussi dans le BTP, c'est-à-dire la gestion de réseaux sociaux, la production de vidéos, l'installation de timelapse, de caméras et aussi la formation. Donc voilà, on est calé dans la com digitale dans ces deux milieux et MXR Communication sont fiers de vous présenter les questions Instagram du soir. On en a eu beaucoup pour toi, Francis. Il y en a une qui est revenue plusieurs fois. C'est quel a été ton plus beau souvenir dans ta carrière? Ça peut être un truc complètement à côté du Supercross de Paris ou de la moto, même si tu veux. Peut-être que dans ta carrière, tu as eu des moments qui t'ont fait vibrer plus que ça.
Oui, j'ai eu des moments extraordinaires, mais j'en ai tellement. Mais je dirais que si je devais vraiment choisir... Alors, ce serait facile de dire le premier Supercross de Paris où le premier soir, je suis en cabine, le deuxième soir, je descends dans la salle. C'était en novembre 90 et je ne suis jamais remonté dans la cabine. Et je suis toujours, à partir de ce moment-là, j'ai pris la salle. Oui, évidemment, ça, c'est un énorme souvenir. Mais si je suis honnête, je dirais que 2 ans auparavant, on revient au Motocross des Nations 1988. Il faut savoir qu'en 1988, jusqu'en 1986, on n'avait jamais rien gagné en France. Je veux dire, Daniel Péan avait gagné un Grand Prix quelques années auparavant, mais et Jean-Jacques Bruno aussi avait gagné des Grands Prix, mais accidentellement, si j'ose dire, il y avait un pilote, Jacky Vimon, qui est arrivé, qui a commencé à gagner aussi, mais on était le parent pauvre. Le motocross était, au niveau structurel, on était très loin du monde. Et en 88, on s'est vraiment révélé avec un motocross des nations à Villars-sous-Écot où on est 40 000 personnes, peut-être c'était pas très loin d'être comparé à ce qui s'est fait cette année, pas très loin de ça. Et l'équipe des États-Unis, les deux équipes, il y a eu une confrontation avec une équipe des États-Unis assez incroyable puisqu'il y avait Jeff Ward, il y avait Ricky Johnson, et il y avait Ron Lechine d'un côté, et puis on avait Yannick Herbella, Jean-Michel Bayle et Jacky Vimon de l'autre. Et on s'est battu avec eux de la première à la dernière seconde. Ça a été une vraie révélation. Derrière, tout s'est enchaîné. Derrière, on a commencé Voilà, Jean-Mi venait d'être champion du monde 125. Jean-Mi est passé tout de suite champion du monde de NMI, et puis les États-Unis, et puis toutes les générations qu'on suivit, de Tortelli, Villemain, etc. Donc 88, c'est quand même une révélation quelque part pour moi au plus haut niveau. Parce que les premiers Supercross de Paris, malgré tout, un peu après, en 90, à part JMB, il y avait très peu de Français capables de s'illustrer. Alors que les nations, c'est le championnat du monde par équipe, c'est la Coupe Davis, c'est les, quelque part, on parle des Jeux Olympiques du motocross. Et là, la France s'est enfin présentée en tant que nation du motocross capable de relever le défi. Ça, c'était énorme. Et les gens ne s'y attendaient pas vraiment non plus. Et l'équipe américaine, vous imaginez que l'équipe, on fait un peu la fine bouche sur les équipes présentées aujourd'hui par les US. Mais quand on voit l'équipe présentée à l'époque avec Jeff Ward, qui a été 9 fois champion des États-Unis, Ricky Johnson, Rod Lechin, c'était juste les mecs, les trois pilotes les plus rapides du monde qui sont tombés contre nos trois petits Gaulois, quoi. C'était incroyable. Donc oui, c'est sûrement mon plus grand souvenir.
Bon, tu réveilles beaucoup de souvenirs aussi dans les commentaires. Hein. On voit que Bollé, JMB, Vimon, Ricky Johnson, ça faisait partie des tronches à Villard. Donc, pas mal de, on a pas mal d'anciens pilotes qui nous écoutent aussi et qui sont un peu de cette génération. Nous, on a l'habitude de le dire, on est plus de la génération suivante. Juste après Jean-Michel Bail.
Mais l'avantage, c'est que moi, je suis aussi de la vôtre.
Exactement.
Multigénération. C'est le privilège, ça. C'est le privilège de l'âge.
Ouais, les nations comme cette année, ça te fait encore vibrer, ça te fait encore quelque chose.
T'es fou, tu peux même pas imaginer. Je vais être, ben c'est heureusement qu'on est que quelques milliers à nous écouter, mais quand j'ai vu la vidéo, pourtant j'ai vu en répète, hein, mais quand j'ai vu la vidéo, même en répète, la vidéo des nations qu'on a présentée à Paris La Défense Arena, j'étais en pleurs. Pendant les répètes, quand j'ai revu la vidéo, j'étais en pleurs. Et pendant la soirée, j'avais des nœuds au bide quand je voyais cette vidéo. Après, le fait de... Parce que bon, la voiture arrivait, les pilotes, c'était merveilleux. Mais moi, je suis toujours très attentif. Enfin, je suis très concerné par la vraie histoire. Et la vraie histoire, c'est ce qui passait ce jour-là, quoi. Enfin, ces deux jours-là. Dès le vendredi à Ernée, c'était juste hallucinant. Dès le vendredi, on a senti qu'il allait se passer un truc extraordinaire. Il y avait 7000 personnes le vendredi pour la présentation des teams. C'était incroyable, tout le monde me regardait, les Australiens, les Américains me regardaient, mais il se passe quoi là? Il se passe quoi? Tous disaient, mais on n'a jamais vu un truc pareil. Et le dimanche, après Ernée, je ne peux même pas les citer parce que des personnalités du monde de la moto étrangère, hein, des personnalités que tout le monde connaît, m'ont dit, avec des mots parfois différents, mais on dit, on n'imaginait pas qu'un motocross un jour puisse ressembler à ça. Il faut dire que tout était aligné, la météo était incroyable, le public était phénoménal, le site s'y prêtait, et puis la France était... Moi, dès le vendredi, honnêtement, je me suis dit, même avec un rhume des foins, même avec 42 fièvres, on ne peut pas battre l'équipe de France, ce n'est pas possible. Je veux dire,
toutes les planètes étaient alignées cette année, tout était parfait.
Tout y était, je veux dire, tout, c'est... Je veux dire, on aurait voulu rêver un truc, voilà, c'est comme disait la vidéo de la Défense Arena, le rêve est devenu réalité, bah, c'est exactement ça.
On a Olivier Nittard qui commente, qui nous dit que bah, tu as commenté 95% de ces SX et à Paris, il a tourné une grande page, il n'a pas pu s'empêcher de verser une larme, donc il te dit merci. Et justement, pour ça, Francis, c'est quoi le plan en fait? Pourquoi c'était ton année Supercross cette année?
Parce que j'ai pas envie de faire l'année de trop, j'ai pas envie qu'on dise « papy, descends de ton fauteuil, là, place aux jeunes, etc. » Je l'entends, si tu veux. Moi, je m'accroche pas, je veux dire, je veux pas m'accrocher.
Tu l'as entendu déjà? Tu l'as déjà entendu, ça?
Oui, oui, je l'ai lu. Entendu de vive voix, non, mais je l'ai lu, puis je sais, je suis pas dupe. Et puis en plus, j'ai jamais eu la volonté de plaire à tout le monde, je veux dire, j'ai jamais fait de l'eau tiède, donc mon objectif, ça a jamais... Je ne suis pas dû en même temps, moi, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai des convictions, j'ai une façon de m'impliquer, j'avais une façon de vivre le truc, et je n'ai jamais cherché à plaire à tout le monde. Tant qu'une grande majorité, c'est ce que j'ai notre cuidance de penser, voire la faiblesse de penser, tant qu'une grande majorité des vrais fans, je ne parle pas de ceux qui ont un bracelet qui ne payent pas l'entrée, ceux-là, honnêtement, je m'en fous. Ceux qui magouillent pour prendre une licence bidon pour pas payer l'entrée sur un motocross, c'est pas mon public, ça m'intéresse pas. Mais par contre, ceux qui payent, ceux qui se déplacent, ceux qui font un effort, ceux qui bossent la semaine, qui se présentent à la billetterie, qui prennent un pack paddock, c'est celui-là, moi, mon public. Et chez ceux-là, j'ai la faiblesse de penser qu'une grande majorité sont plutôt favorables à ma façon de vivre le truc. Et puis, je ne cherche pas, encore une fois, à plaire à tout le monde. Le super connaisseur et tout, qui est sur les réseaux sociaux, mais qui a jamais payé un billet. Enfin, tous les mecs qui donnent des leçons, mais qui sont derrière un écran et qui ne se déplacent jamais sur une épreuve pour apporter leur contribution économique à un motoclub, ils ne m'intéressent pas, ces gens-là.
Tu as une idée, toi, de ton successeur ?
Non, je trouve que Jean-Christophe a beaucoup progressé. Jean-Christophe, pour moi, est le plus légitime dans cette histoire. Après, Jean-Christophe, c'est pas un showman de nature. On n'a pas la même personnalité. Puis, il faut surtout pas qu'il fasse du Magnano. Il faut qu'il fasse du Vasquetto. Donc, si Jean-Christophe fait le job, ça le fera. Ce sera différent. Ce sera un autre style. Ce sera peut-être moins grand public, peut-être moins Interville, mais ce sera très bien.
Donc, ouais, bon, après. Ouais. Personnellement, je trouvais bien le binôme avec Jean-Christophe et toi, ou toi, tu étais plus showman, Jean-Christophe, il restait un peu plus dans l'analyse, du coup. Donc,
c'était l'idée.
Ouais, mais ça vous complétiez bien. Du coup, j'imagine avec Jean-Christophe, si c'est lui qui reste, plutôt un showman à côté.
Mais ouais, faut lui poser la question. Peut-être que c'est à lui qu'il faut poser la question avec qui il va devoir travailler, parce que moi, honnêtement, ouais. C'est fini, quoi.
Peut-être que c'est pas décidé, du coup, encore. Peut-être qu'il...
Bon, il y aura peut-être plusieurs options, puis il y aura peut-être des choses très différentes. Et puis, voilà, moi, il n'est pas dit que je ne m'intéresse pas au dossier de façon extérieure, tu vois, pour peut-être donner quelques conseils, ou des conseils évidemment totalement désintéressés. Et voilà, je peux avoir un avis dans certains cas, mais je ne serais plus en aucun cas, je serais décisionnaire, c'est clair.
D'accord, ouais,
tu seras quand même au MXGP de Saint-Jean-d'Angély. C'est pas fini,
oui,
voilà,
pour ceux qui sont probablement...
C'est fini, Paris, c'est fini, mais par contre, on continuera de te voir sur des
événements. Bien sûr, je serai Saint-Jean et je vais probablement rester sur tous les Grands Prix avec un truc qu'on fait cette année qui s'appelle le Paddock Show, où j'interviens le samedi avec une séquence d'une demi-heure où j'ai des invités, les vainqueurs des manches qualificatives, les héros locaux et tout ça. Je pense que c'est un truc... que je vais poursuivre. En plus, ça va probablement en emmerder encore quelques-uns parce que je suis très proche de José Pelongo, c'est probablement mon meilleur ami et je suis très, très impliqué, très concerné. Et quand il me demande, comme je l'ai fait avec beaucoup d'autres, quand il me demande non pas de l'aide, mais quand il me demande de bosser avec lui pour tel ou tel dossier, comme vous le faites avec vos propres amis, vous dites oui, vous le faites, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, je vais rester connecté, mais je vais continuer d'avoir des activités dans le domaine du MX parce que et du SX, parce que c'est, même si c'est secondaire dans mon volume économique, si je veux, dans mes flux économiques personnels, ça, c'est une énorme passion. Je n'irai pas jusqu'à dire une raison de vivre, mais c'est quelque chose qui me prend vraiment aux tripes encore. Et ça, c'est rassurant.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as, à ton âge, encore envie de faire et que tu n'as pas encore fait dans ce milieu ?
En termes d'événements ou en termes de façon de...
Ouais, d'événements ou de...
Même en termes de pilote, si tu veux... Pilote, hein, pourquoi pas. Tu veux faire un Grand Prix à 66 ans. Qui va t'en empêcher ?
Non, mais j'ai les pieds sur terre à ce niveau-là. Non, ce que je veux dire, ce n'est pas du tout de la prétention, mais c'est aussi pour ça que je m'arrête. J'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je peux faire de plus ? J'ai présenté le Dakar pendant une quinzaine d'années. J'ai bossé sur la F1. J'ai même fait un peu de MotoGP. J'ai même fait le bol d'or pour la Rivière à l'époque. J'ai fait la Coupe du Monde de rugby. J'ai fait des événements incroyables. J'ai fait l'inauguration du Stade de France, donc en février, pardon, 98. Je veux dire, je suis pas du tout en train de me distribuer des médailles, mais enfin, je veux dire, et j'oublie plein de trucs, mais. Des conventions professionnelles, des choses avec 15 000 personnes que j'ai fait danser alors qu'ils étaient venus avec des panneaux de la CGT. Donc, tu vois, c'est des grands moments comme ça, techniques de, j'allais dire, pratiquement de manipulation de foule. Enfin, tu vois, ce côté un peu mégalo qu'on peut avoir sur scène quand on a un impact sur le public, c'est exaltant. Et en tout cas, moi, ça m'exalte. Et quand ça fonctionne, ça m'exalte. J'ai des souvenirs dans les supercross à Lavore ou à la Tremblade ou quand je suis seul sur scène en particulier, c'est-à-dire que quand je peux vraiment faire ce que je veux, choisir le rythme que je veux, les temps morts dont on a besoin pour faire respirer le public. C'est pour ça que souvent, je préfère travailler seul parce que justement, quand j'arrête, c'est pas que je suis fatigué, c'est que j'estime qu'il y a besoin d'une pause, de faire souffler un peu, tu vois. Donc, et parfois, quand on est plusieurs comme ça, bah, dès que tu arrêtes, quelqu'un reprend et en remet une couche. Et à mes yeux, c'est pas tout. Si je m'arrête, c'est pas forcément qu'il y a besoin. Alors, Jean-Christophe, ça va parce que je m'arrête avant et je lui laisse la parole avant. Mais c'est vrai que quand je suis seul, je peux vraiment... rythmer l'événement comme je le ressens et comme je le ressens parce que ce que je crois ressentir du public. Donc voilà, c'est exactement comme un joueur de violon qui joue. si c'est un soliste, c'est un soliste, quoi. Il est content d'avoir des gens en accompagnement derrière, mais pas qui jouent la même musique que lui. Pardonnez-moi la métaphore, mais...
On a une remarque intéressante de Manu qui dit « Je pensais que Bercy sans Loulou Bernardelli, ça ne serait plus pareil. » Et Francis est arrivé et d'après lui, un nouveau arrivera.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, non, mais évidemment. Et, bon, c'est un vieux cliché, mais les cimetières sont plein de gens irremplaçables. Donc, je n'ai pas du tout la prétention d'être irremplaçable. Ce que je pense, c'est que ce serait une erreur de vouloir de mettre quelqu'un en place pour faire du Magnanou, enfin dans mon style. Je pense qu'il faut autre chose. Il faut que chacun ait sa propre personnalité et pas se mettre dans le costard des autres. C'est ce que je pense. Après, peut-être que j'ai tort, hein. Mais je veux dire, vous savez, c'est comme la chanson. Je veux dire, Céline Dion, c'est Céline Dion. Il y en a plein qui ont essayé de chanter quand même. Même si elle chante aussi bien, ça reste toujours qu'une imitation. Et je pense qu'il vaut mieux avoir... Garou, il a sa voix, quoi. Il ne cherche pas à ressembler à Johnny. Je veux dire, on peut aimer Johnny et Garou en même temps. C'est deux choses différentes. Enfin, vous comprenez ce que je ne revendique pas le monopole du talent ou de la qualité. Mais je pense que quand je suis arrivé, ce style n'existait pas, clairement. Ça a été quelque chose de nouveau à l'époque. C'est pour ça que c'était très vite. Et puis qu'évidemment, je ne sais pas si j'ai servi d'inspiration à tel ou tel, mais forcément, on s'inspire toujours de ceux qui occupent le haut de l'affiche dans un métier ou dans un sport ou autre chose. Donc l'idée, c'est qu'on doit s'inspirer de tout le monde, mais avoir sa propre personnalité.
Toi qui as touché à plusieurs milieux, Francis, de manière plus générale, tu sais, dans le motocross, on a tendance, des fois, j'ai l'impression, à se voir un petit peu plus gros que ce que l'on est en termes de sport. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour toucher le grand public ?
Vous voulez que je vous dise, je pense que malheureusement, on a raté le coche il y a quelques années. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'air du temps. La pratique de la moto verte est de plus en plus compliquée, tout le monde le sait. On va se diriger, alors je ne sais pas à quelle échéance, mais on va se diriger sur des pratiques cantonnées sur des circuits fermés, où le public ne sera pas forcément un élément moteur. Le problème, vous voyez, pas du digital tout à l'heure, le digital fait beaucoup de mal aussi, parce que à force de voir des images partout, gratos, sur son téléphone ou sur sa tablette, c'est compliqué de demander 50, 70 balles ou 100 balles à des gens pour venir voir des trucs qu'ils ont l'impression d'avoir vu en vidéo. En réalité, ça n'a rien à voir, une vidéo et le live, c'est comme un grand match de rugby, ça remplace. Les tribunes ne seront jamais remplacées ou remplaçables. Non, je crains que l'avenir soit pas joyeux, et en particulier l'électrique. Moi, ça m'emmerde clairement, même si je sais que c'est dans l'air du temps. Je suis quelque part content que ça se fasse sans moi, quoi. Je sais que c'est inéluctable, hein. Je veux dire, y a des gens qui ont pas aimé l'arrivée de la locomotive électrique et qui ont regretté la machine à vapeur. Ils avaient tort. Moi aussi, j'ai sûrement tort. Mais Dieu merci, on a encore le droit d'avoir des émotions, d'avoir des vibrations. Et moi, je ne vibre pas pour une pétoire électrique. Pour moi, c'est un sèche-cheveux avec des roues, quoi. Donc, ou faire repasser ou ce que vous
voulez. Mais, on voit souvent l'aspirateur, mais ouais, séchoir, c'est pas mal. J'en ai rarement lu.
Mais bon, après, on va dire que je suis misogyne, ce qui n'est pas tout à fait faux non plus. Donc, non, mais ce que je veux dire par là, sans rigoler, je veux dire, c'est pas moi, ça me fait pas vibrer. Déjà que moi, j'ai connu l'huile de ricin sur les moteurs de temps avec son odeur. On ne l'a plus aujourd'hui, mais la synthétique, ça va, on arrive à avoir quelques petites odeurs sympas. Voilà, je suis un vieux con et je l'assume. Mais je suis content d'être un vieux con, parce que ce qui se profile là, de façon générale, la société telle qu'elle est en train d'évoluer, et la moto n'est pas abritée, non pas à l'abri plus exactement de ces mutations, elles ne correspondent pas à ma culture, à mon éducation justement.
Donc, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, Francis, parce qu'on en parle souvent dans nos lives. Toi, tu penses clairement que le digital aujourd'hui, ça garde les gens chez eux, tu penses qu'à cause de ça,
sur leur
téléphone. Ouais. Ah ouais, moi je pense l'inverse personnellement. Je pense que quelqu'un qui est de Toulouse et qui voit le Supercross de Briennon ou le Supercross de Paris sur son téléphone parce qu'il n'a pas les moyens d'y aller, mais quand tu auras un Supercross à côté de chez lui, je pense que ce gars-là, vu qu'il a pu le regarder sur son téléphone gratuitement, il va faire l'effort d'aller à côté de chez lui. Je pense que si on le tourne bien, après attention comment
on
utilise ces outils-là.
On a tous cru à ça. Moi le premier, hein, j'ai cru à ça aussi, j'y crois beaucoup moins. En tout cas, je pense qu'on est dans une époque charnière. C'est comme toutes les révolutions industrielles, il y a une période où ça bascule et où on n'a pas complètement encore muté vers cette technologie complète, en tout cas dans son fonctionnement intelligent. Donc je pense que l'image gratuite, le fait de tout démonétiser, de tout dématérialiser, mécaniquement, inconsciemment, ça influence le consommateur, et il y a beaucoup de gens qui se disent, mais puis regardez les commentaires sur, sur les réseaux sociaux, les commentaires souvent d'ailleurs désobligeants à l'égard du Supercross. Ce sont des gens qui viennent pas parce qu'ils mais ils l'ont quand même regardé et qui venaient pas avant de toute façon. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ils viennent pas quand même aujourd'hui, ils gueulent de chez eux. Mmh. Les mecs qui sont chez eux, ils sont contents.
Ça va pas changer.
Ils se manifestent beaucoup moins. Les gens qui écrivent, qui font des posts pour dire « Ouais, c'était génial », il y en a. Mais la plupart des gens qui ont trouvé ça super, ils trouvent que c'est normal et que finalement, ils n'ont pas besoin d'en rajouter. Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, le mec qui gueule, lui, il va l'écrire. Donc, le ratio entre le content et pas content sur les réseaux sociaux, pour moi, il est rarement révélateur de la réalité, du mainstream, de la population. Si vraiment on fait un sondage, on chope tous les spectateurs à la sortie de Paris La Défense Arena avec un questionnaire digital ou pas digital et qu'on arrive à voir le reflet de toutes les impressions des gens présents, là, je croirais à ça. Mais malheureusement, je crois pas à ça. Je crois que ceux qui gueulent sont ceux qui gueulent le plus fort et c'est ceux qui se manifestent. C'est la fameuse majorité silencieuse qui m'intéresse aussi. Vous savez, on en parle un nom qui est connu, c'est un phénomène qui est connu. Il y a beaucoup de gens qui lisent rien et parce que ça leur va. Mais il y a beaucoup de gens qui lisent rien aussi parce que ça leur va pas. Donc, pour répondre à ta question, ce sera quelque chose d'extraordinaire quand ce sera complètement maîtrisé. Pour le moment, c'est pas maîtrisé. C'est encore dans tous les sens. D'ailleurs, on commence à voir des choses qui évoluent puisqu'on voit qu'Elon Musk est en train de monétiser l'apparition maintenant sur ses propres réseaux, Insta et tout, ça va être payant. Je veux dire, Le gratos, ça tout va, je ne sais pas quelle échéance, mais ça va être terminé très vite. Donc, quand il va falloir payer, peut-être que ça redonnera, et je crois que ça redonnera un vrai sang neuf, un vrai coup de boost aux événements physiques, parce que les gens qui devront payer, même si c'est moins, ils n'ont qu'à payer, autant aller voir le vrai spectacle. Vous comprenez ce que je veux dire?
De toute façon, il va y avoir deux choses. Soit les gens vont être obligés de payer, soit ils vont être bombardés de publicité parce que c'est gratuit. Donc, en fait, on va avoir
dans ces cas-là, ils vont vite s'emmerder et ils passeront à autre chose. Enfin,
voilà, c'est exactement sur ça que je voulais en venir. C'est que dans tous les cas, au bout d'un moment, on va être blindé de publicité parce que c'est gratuit. Donc, on aura du public physique, du public virtuel. Moi, pour moi, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Je pense que plus les personnes voient du motocross et du supercross, plus ça donnera envie aux personnes, donc en virtuel, de se déplacer en physique. Parce que peut-être parce qu'ils trouveront ça très très bien en virtuel et il y aura l'inconvénient des pubs, l'inconvénient de payer dès le virtuel, donc du coup ils se déplaceront au bout d'un moment. Mais plus on en montre, pour moi, plus on va faire accrocher les gens à un sport que on s'en rend pas compte, on est une petite niche, on a l'impression que tout le monde le connaît, mais que 98% des gens ne connaissent pas réellement.
T'as peut-être raison, mais je suis quand même, encore une fois, mon expérience fait que je suis quand même très, très, très dubitatif par rapport à ça. J'ai l'exemple du MX où on a, avec Giuseppe Longo, on va y revenir, à partir de 95, on a commencé à avoir un vrai programme de diffuseur télé avec une couverture internationale. Auparavant, il y avait un peu des mages en Belgique, en Italie. Je ne parle pas des États-Unis qui avaient leur propre réseau. Et sur les Grands Prix MX, il n'y avait que des télés locales. Pour le Grand Prix du jour, il n'y avait pas de couverture internationale. Depuis l'arrivée de... À l'époque, c'était Action Group. Voilà. En 1995, on a commencé à faire des programmes avec Eurosport, etc. Ça a fait du bien. Ça a amené des annonceurs. Ça a fait du bien à une dynamique économique. Les constructeurs ont aimé, les constructeurs moto, l'industrie en a bénéficié. Mais en matière d'affluence... comment dire, sur les Grands Prix ou autres, ça a pris d'impact. Je vous rappelle qu'en 1962, je crois, à la Guépy, il y avait 29 000 spectateurs pour un Grand Prix 250 en 1962, à la Guépy, dans le Tarn-et-Garonne. Je ne sais pas si tu vois la Guépy dans le Tarn-et-Garonne, mais le premier hôtel, il est à 40 km. Et pour aller, hein, bon, je sais que vous connaissez. Je veux dire, ouais. Il y avait 29 000 spectateurs payants pour le Grand Prix 250 et il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait même pas de télé. Donc, vous avez... En partie raison, mais malheureusement en partie tort aussi. Je crois que les contraintes font que le sport moto comme le reste, c'est dans une compétition effrénée et que la solution, elle passe par la pub. Et si d'ailleurs, pour les réseaux sociaux, comme pour le Supercross de Paris, parce que j'y reviens tout à l'heure, il y en a qui disent « Oui, mais Bagnano, il a passé son temps à faire de la pub pour AMV, à faire de la pub pour Milwaukee, à faire de la pub pour BMW, etc. » Mais bien, je suis premier conscient que ce n'est pas le plus exaltant qui soit. Sauf que si ça, on ne le fait pas, on n'est plus à 100 balles, on est à 120. Est-ce que tout le monde est prêt à payer 20 balles de plus pour se passer des annonceurs? Tu la connais la réponse. Ouais, je viens de le dire pour les réseaux sociaux. Donc voilà, les mêmes qui gueulent parce qu'il y a trop de pubs, ils disent qu'ils gueulent parce qu'ils ne veulent pas dépenser 20 balles de plus à un moment donné. Il faut être un peu cohérent. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a ce qu'on voudrait voir, il y a ce dont on rêve, il y a un monde idéal, le monde des bisounours, et puis il y a la réalité de terrain, la réalité de sécurité, de législation. Faire de la moto, ça va être de plus en plus compliqué. Je parle de la moto verte en particulier.
Exactement.
Moi, je viens d'une génération, on n'avait même pas de radar. Hein. On n'avait même pas de radar. Donc, tu vois,
je peux dire. On n'avait même pas de permis.
On se faisait engueuler, mais on n'avait pas de radar. Le flic. Pardon ?
Il n'y a pas de ceinture. Je disais, vous n'aviez même pas de permis. Bon, c'était plus, permis à point qui arrivait après, on va dire.
Oui, moi, je l'ai eu. Alors, je vais te faire une confidence. D'ailleurs, on est le 23 novembre. Dans 10 jours, j'ai sur moi. Dans 10 jours, j'aurai 50 ans de permis.
Ouais. C'est beau, ça.
Je fais 50 ans de permis. Hein, eh oui, moi, je l'ai eu à 16 ans parce que la loi du 1er juillet 1973 est passée à 18 ans au 1er juillet 1973. Mais pour pouvoir le passer à 16 ans, il fallait avoir eu 16 ans avant le 1er juillet. Moi, je l'ai passé en décembre, mais je me suis inscrit avant le 1er juillet parce que j'ai eu, sur le mois de mars, que j'ai eu mes 16 ans. Et dès que j'ai eu 16 ans, je n'ai pas beaucoup de sous, mais j'étais m'inscrire au permis. J'ai fait un dossier. Et la date d'inscription, c'est elle qui faisait foi. Donc, comme je n'ai pas trop de sous, j'ai traîné sur les leçons de moto et j'ai fini par le passer en décembre, mais je l'ai eu à 16 ans. Alors, 16 ans et demi, puisque j'avais eu 16 ans au mois de mars. Mais à 16 ans, j'avais le permis A. Il y avait A1 pour les 125 et A. Donc, je veux dire, ce monde-là, il n'y avait pas de radar sur les routes. On roulait, on mettait le casque parce qu'on n'était pas cons, mais on n'était pas affliqués du tout, comme on est aujourd'hui, pour plein de raisons. C'était une France d'une certaine liberté. Bon, ben voilà, la société évolue et il y a sûrement plein de choses positives. Mais pour les gens de la génération de la liberté, c'est plus compliqué. Comme pour nous, on le vit moins bien, tu vois.
Ouais. On blesse, heureusement que tu n'étais pas de cette dégénération, parce que déjà, à 16 ans, tu as eu du mal à avoir ton BSR.
T'es trop malicieux.
Ouais. Non, mais bon, faut reconnaître que le permis moto de l'époque, c'était un sketch. Hein. Tu avais rendez-vous avec un inspecteur dans une rue, en ville, hein, comme ça, il n'y a pas de circuit, il n'y avait rien. Tu étais arrêté au bord de la rue, à côté de lui, il te disait, bon, monsieur, vous démarrez, vous allez, que je vous vois là, vous allez au bout de la rue, là-bas, 400 mètres environ, vous montez les rapports, vous faites un demi-tour au bout de la rue, sans poser le pied par terre. La rue n'était pas très large, hein, ça ne se faisait pas sur l'autoroute. Vous faites un demi-tour, vous revenez, au coup de sifflet, vous faites un freinage d'urgence et vous ne devez pas caler et vous arrêtez. C'était ça le permis.
Ah oui,
ça va. Tu tournais, tu tournais en façon trialiste, hein, pour être sûr de tourner 100 mètres, le pied partait dans le virage. Et tu entendais, tu freinais violemment, enfin violemment, tu freinais fort.
Tu mettais pas un tambour, donc c'était pas si violent que ça, quoi.
Exactement. Tu te mettais au point mort et puis là, tu attendais impatiemment le verdict de l'examinateur. C'est pas une blague. C'était ça le permis. Alors forcément que la liberté a un prix. Donc je pense que c'était bien de le rénover, de le modifier, de le rendre un peu plus difficile. Parce que, enfin, ceci dit, il y avait des accidents de moto sans doute plus violents aujourd'hui, enfin à l'époque qu'aujourd'hui. Donc la réglementation a eu de bonnes choses probablement. Mais trop de réglementation tue la réglementation aussi, c'est comme tout le reste. Ouais, il y a plein de choses à faire, mais c'est une question de balance, il ne faut pas aller trop loin. De mon point de vue.
Bon, parfait.
Ok.
Très bien, ben merci Francis. Écoute, on a dépassé à peine l'heure de live, donc c'est parfait, on va pouvoir te laisser aller au lit vu qu'il est.
On veut pas que tu te fasses gronder par les voisins.
Déjà, je me fais engueuler par les voisins, et puis en plus, demain matin, je me lève tôt, je vais jouer au golf pour ne rien vous cacher. Vous voyez, donc, je vais me lever tôt demain matin parce qu'ici il fait très très chaud, donc il vaut mieux aller jouer au golf le matin. Tu vois,
ouais, ok. Bon, c'est bien, merci beaucoup d'avoir dit oui au pied levé comme ça. C'était plutôt cool. Hein. Je t'ai vu au téléphone hier matin et tu m'as dit non, il n'y a pas de souci, je pourrais me libérer malgré le voyage. Donc, c'est vraiment sympa de ta part. Et en tout cas, tu liras peut-être les commentaires plus tard, mais tu laisses de très très bons souvenirs à tous ceux qui t'ont connu sur le Supercross de Paris et ceux qui viendront te voir très certainement à Saint-Jean-d'Angély pour le Grand Prix de France. Ça, c'est sûr et certain. Donc, merci à toi, Francis.
J'espère beaucoup. J'espère en tout cas. J'ai toujours fait ce que je croyais devoir faire. J'ai jamais triché. Je l'ai fait à fond avec ma personnalité, qui, je le sais très bien, n'a jamais été faite pour plaire à tout le monde. J'ai jamais eu la volonté de plaire à tout le monde, mais j'ai choisi une ligne directrice. Je m'y suis tenu et je remercie toutes celles et ceux qui nous ont écoutés ce soir, en espérant forcément, j'en ai déçu quelques-uns, probablement, mais j'ai jamais voulu faire mal à qui que ce soit. J'ai toujours dit ce que j'avais envie de dire parce que je pensais que c'était juste. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle fin de soirée.
Salut. Merci Francis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live pour les autres. Bonne soirée, salut.
Merci. Bonne soirée à tout le monde.